Bonjour à tous
et bienvenue pour cette émission.
Cette semaine, 12 jeunes du Petit Bar et de Celle Neuve se sont réunis.
Ils ont réalisé une émission de radio sur la famille,
inspirée du film Adama.
Vous allez partager avec nous un moment magique
qui va vous emmener
non seulement
dans le monde de la famille,
mais aussi
à travers l'histoire de la Première Guerre mondiale.
Nous vous réservons plein de surprises,
des interviews,
des critiques radiophoniques,
des témoignages,
des jingles.
Chut, n'en dites pas plus
et laissez-les découvrir.
La radio des ados.
La radio qui explose en morceaux.
Qu'est-ce que c'est pour vous la famille ?
C'est le plus important.
La famille, c'est notre base, c'est là où on se sent le mieux, c'est notre point de chute.
La famille, c'est tous les gens qu'on aime, tous les gens qui sont issus du même sang. Et...
La famille, c'est l'amour, le partage.
Décrivez votre famille en un seul mot.
Bordel.
Diverse.
Amour, c'est un peu bateau, je sais, mais c'est ce que ça m'évoque.
Quelle est la pire bêtise que vous avez faite avec vos frères et sœurs ?
La pire bêtise ? J'en ai fait tellement. Allez, on va prendre un exemple. Alors, moi, j'ai grandi en Afrique. Et je partais beaucoup chez mes grands-parents. Et vers chez eux, il y avait une colline. C'est comme la montagne. Et en bas, il y a l'eau qui coulait. Et il y avait des pierres de partout. On montait sur la colline et on visait le trou d'eau pour plonger dedans. C'est-à-dire, tu rates l'eau, tu es sur la pierre. Un accident, t'es handicapé à vie.
Vous voulez vraiment en connaître une ?
Oui.
Laissez tomber mon petit frère dans les ronces où il y avait des mûres qu'on était en train de cueillir pour faire une tarte.
J'ai vendu des pompons qu'on avait fabriqués en faisant du porte-à-porte. Et avec les sous, on a acheté de la peinture pour repeindre les volets.
Monter sur le clocher de l'église.
Ah, je vais pas le dire, j'ai peur de me faire punir, même si je suis grande.
Qu'est-ce que vous seriez prête à faire pour la famille ?
Tout. Tout, on peut tout faire. Pour ma famille, je serais prête pour de tout. Hein. Car la famille, elle est très très importante.
L'impossible ?
Décrocher la lune, ça compte ? Ok, je prends.
Caméra 1, ok. Caméra 2, ok. Caméra 1, ok. Caméra 2, ok.
Moteur!
3, 2, action!
Et maintenant, nous allons passer aux critiques du film Adama.
Tout d'abord, nous allons vous présenter nos invités critiques. Kautar, Elika et Alice.
Ce qui m'a plu dans le film d'Adama, c'est la façon dont il a été créé. Ce film a été réalisé à partir de sculptures. Ils ont sculpté les figures de tous les personnages. Une fois toutes les poses de tous les personnages finies, il faut scanner en 3D toutes ces magnifiques sculptures. Ensuite, ils retouchent toutes les images scannées. Ils y mettent des couleurs, des motifs, etc. Mais bien sûr, nous ne le voyons pas quand nous regardons le film. Nous apercevons simplement les têtes qui bougent légèrement. La peau des personnages n'est pas lisse, comme dans les dessins animés habituels. Elle paraît plus réelle, presque vivante.
Viens parmi nous, esprit des falaises.
Salut petit frère.
Alors, t'es prêt pour la cérémonie ?
Ce que j'ai aimé dans le film Adama, c'est quand son frère Samba et lui sautent dans l'eau depuis une falaise. C'est le tout début du film et on voit tout de suite qu'ils sont très proches. Ça m'a touchée de les voir complices. Adama admire son frère et est prêt à tout pour lui. J'ai une petite sœur de 9 ans et j'aimerais avoir le même genre de relation avec elle.
J'aime beaucoup le moment où Adama décide d'aller chercher son grand frère Samba. Il a peur pour lui et je pense qu'il l'aime beaucoup.
J'ai bien aimé le courage d'Adama. Il a seulement 12 ans et il se jette droit dans la gueule du loup. Il s'en va dans un endroit sinistre et redouté par tout le monde. Et il n'a pas peur. En tout cas, il ne le montre pas.
Alors tu pars ?
J'ai pas le choix de toute façon.
Mon fils ne reviendra jamais et tu le sais !
J'irai ! Je rendrai l'or à la Sarah ! Je ramènerai Samba !
Reviens ici ! Adama !
L'histoire, c'est celle d'Adama, 12 ans, dont le grand frère part pour devenir soldat. Adama décide de partir à la recherche de son frère pour le ramener à la maison. Il quitte l'Afrique et traverse la France
pour le retrouver. Adama prend le bateau qui emmène les soldats en cachette. Une fois arrivé en France, il monte dans un camion déguisé en soldat, puis il rentre dans un hôpital espérant y trouver son frère. Il va jusqu'à Verdun se perdre dans un champ de bataille. Bref, je considère qu'il aime son frère de tout son cœur.
L'histoire se passe pendant la Première Guerre mondiale. Ils vont rencontrer plusieurs personnes qui vont l'aider à retrouver son frère. C'est un voyage initiatique. Dans l'histoire, Samba est possédé par le monde des Nassara et l'argent. Quand son frère le retrouve, il va se faire déposséder et va retrouver le lien qui l'unit à son petit frère. Il va aider Adama à sortir de Verdun. J'ai aimé ce passage où on les voit coincés dans la boue du No Man's Land et où Samba aide son frère et le porte pour le sortir et le ramener chez eux.
Je trouve que Adama a un courage suprême. Même si au début, je pense qu'il ne mesurait pas les conséquences du danger.
C'est un bel esprit de famille. Moi, j'ai une grande famille, plus grande que celle d'Adama. J'ai quand même 3 grandes sœurs. L'esprit de famille, je connais. Même si des fois, on l'égare. Le jour de ma rentrée en CM2, c'est ma plus grande sœur qui m'a accompagnée. C'était bien ce moment toutes les deux. Surtout que je la vois pas souvent. Elle est partie vivre en Allemagne. Mais il y a un moment que je n'ai pas aimé dans le film. C'est la guerre. On retrouve Adama et Samba sur le champ de bataille. Il y a plein de dangers, des fils barbelés, des morts. Ce n'est pas que j'ai peur, c'est que je n'aime pas la guerre. Je trouve ça moche. Et pour les tirailleurs sénégalais, ça devait être horrible. Ils étaient obligés de tuer des gens qu'ils ne connaissaient même pas. Je pense que c'est bien de pouvoir voir ce film. Il apprend beaucoup de choses sur la guerre, les tirailleurs sénégalais et l'amour entre frères.
Globalement, j'ai adoré ce film. C'est un film émouvant qui est très beau. Je vous conseille vivement d'aller le voir.
J'ai vécu 8 ans et demi fille unique et puis un jour ma sœur est arrivée. Maintenant je suis l'aînée. C'est dur d'être la plus grande, faut toujours montrer l'exemple. Je dois pas faire de bêtises et il faut que je fasse attention parce qu'elle répète tout ce que je dis. Ma sœur, elle est comme toutes les sœurs. Des fois elle peut être cool et des fois elle est très très énervante. Elle rentre dans ma chambre, elle crie. Bon, ça n'empêche pas qu'on passe aussi des bons moments. Même si elle n'a que 3 ans, on joue ensemble. Et c'est drôle parce que Maë, elle a plein d'imagination. Elle est assez extravagante, elle va vite vers les gens, se fait des amis facilement, tout le contraire de moi quand j'étais petite. Après, comme toutes les sœurs, on se dispute pour des choses bêtes. Ma sœur, elle aime tout faire comme moi. Elle voudrait être plus grande, avoir mon âge, mes amis, les mêmes droits que moi. En fait, je crois qu'elle m'admire un peu. Mais des fois, c'est agaçant. Je ne me rappelle plus beaucoup de ma vie d'avant, quand j'étais fille unique. Je crois que c'est mieux comme ça. Sans elle, je m'ennuierais. Elle me fait rire. Quand je suis triste, elle me remonte le moral. Elle met l'ambiance, ma sœur. Alors oui, c'est compliqué d'avoir une petite sœur, surtout quand c'est une terreur comme la mienne. Mais malgré tout, je l'aime.
Bon.
Bonjour tout le monde. J'ai deux personnes à mes côtés. C'est Marius et Noé, nos historiens du jour. Bonjour Marius. Bonjour Noé.
Bonjour Mohamed.
Bonjour Mohamed.
Ils vont nous raconter comment s'est déroulée la Première Guerre mondiale. Ça vous parle la Première Guerre mondiale ? Allez, c'est parti. Noé, quand est-ce que la Première Guerre mondiale a commencé ?
Alors attends Mohamed, je connecte mon cerveau et on retourne au XXe siècle. Tout a commencé en 1914 quand un Serbe a assassiné l'héritier du trône austro-hongrois. C'est comme ça que la guerre a éclaté et a fini sur les champs de bataille de Verdun.
Ah d'accord, merci Noé, j'espère que vous avez suivi. Et maintenant Marius, peux-tu nous dire quels sont les deux camps qui se sont affrontés ?
Évidemment, il y avait la France et l'Allemagne. Mais pas que.
Ah bon ?
Oui, évidemment, sinon ça n'aurait pas été une guerre mondiale. Donc on récapitule. Pour la Serbie, il y avait la France, les USA, le Royaume-Uni et la Russie. Aux côtés de l'Autriche-Hongrie, il y avait l'Allemagne. Et les Italiens qui ont changé de camp en plein milieu.
Mais Marius, tu as oublié de mentionner les colonies de ces pays qui ont été obligées de faire la guerre durant tout ce temps.
Tout ce temps ? Mais en fait, ça a duré combien de temps la guerre ?
Elle a duré 4 longues années. Et le pire, c'est qu'ils pensaient que ça durerait que 2 mois. Ils sont partis en août et ils n'avaient pas prévu de vêtements d'hiver. Et dans les tranchées, ce n'est pas la maison du président de la République, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, après 4 ans de boucherie, la guerre se termine le 11 novembre 1918.
Marius, tu te rends compte ? La guerre a eu lieu il y a plus de 100 ans.
Tu as raison, Mohamed. Et en plus, elle a été très particulière, cette guerre. Elle avait lieu dans les tranchées. Mais vous savez ce que c'est, les tranchées ? C'était des immenses fossés où vivaient les soldats. Il y faisait froid, il y avait des rats, des restes d'obus et des douilles. Le paradis, quoi. Ils avaient pas de tordis, pas de télé, pas de wifi, et leur seule occupation était de jouer aux cartes, nettoyer leurs fusils, et lire et écrire des lettres. Et en plus, ils dormaient sous la terre, et leur seule berceuse était des coups de feu, des explosions et des cris de douleur.
Eh ben, c'est du joli. Noé, une petite anecdote pour finir.
Une anecdote sur la Première Guerre mondiale ? Laisse-moi réfléchir. Ça y est, j'ai trouvé ! Les Français et les Allemands avaient un accoutrement complètement différent. Les Allemands étaient en kaki, ce qui était pratique pour se cacher plus facilement. Pas comme les Français, vous vous rendez compte ? Ils étaient en bleu et en rouge avec des boutons dorés. Ils auraient pas pu trouver des couleurs moins fâchies ? On n'est pas à la Fashion Week. Heureusement, ils ont fini par changer. Sinon, aucun Français serait revenu de la guerre.
Merci Noé, merci Marius.
De rien.
Bon, on espère que maintenant vous connaissez mieux la Première Guerre mondiale. Maintenant, on retrouve Fred Chauvet qui va nous parler des tirailleurs sénégalais.
En 1938, au cours de l'une de recrutement, m'ont envoyé une convocation pour me présenter au bureau de recrutement. J'étais fort obligé de me présenter comme tout citoyen.
Et on a des témoignages de tirailleurs sénégalais qui ont fait la Première Guerre mondiale ou de leurs descendants.
Qu'est-ce que ça veut dire, tirailleur ?
Donc très important, le tirailleur sénégalais, ce terme a été utilisé un peu pour tout et n'importe qui, si je puis dire. À la base, on pourrait le restreindre uniquement aux troupes indigènes venues d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique équatoriale. Donc les pays comme le Bénin, le Togo, le Sénégal, bien entendu, hein, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso pour l'Afrique de l'Ouest, le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo et le Gabon pour l'Afrique équatoriale. Donc le tirailleur sénégalais, normalement, ça désigne uniquement ces hommes de troupes qui sont originaires de cette zone de l'Afrique. Sauf qu'il a été... Comme c'est un peu l'emblème, en fait, le tirailleur sénégalais, il y a toute une image qui fait que eh bien, ce terme va englober les autres tirailleurs venus des territoires d'outre-mer, des autres colonies.
Est-ce qu'ils étaient obligés de partir ?
Oui, ils étaient obligés de partir. Je rappelle donc que le maître, celui qui dirige, c'est le Français, d'origine métropolitaine, qui s'est installé en Afrique. Et la situation des autochtones, qu'on appelle donc des indigènes à ce moment-là, est inférieure. Ils n'ont pas les mêmes droits. Ils sont un peu, faut être clair aussi, ils sont sous le joug du métropolitain qui gère à la fois l'administration, mais également les terres agricoles. Et l'autochtone, l'indigène, il va travailler dans l'exploitation de l'Européen qui s'est installé là, qui lui a quand même plus ou moins volé sa terre. Donc au moment de la guerre, c'est pas le tirailleur sénégalais, c'est pas l'indigène qui a décidé, mon Dieu, je vais aller défendre cette patrie si lointaine d'ailleurs qu'est la France. On l'a plutôt obligé. L'esclavage n'est plus en vigueur, mais on n'est pas très loin, quand même.
Y'a bon, Balagna ?
C'est un déjeuner.
Un goûter délicieux, Banania.
Banania, Banania.
Y'a bon.
Banania.
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 Banana.
Que sont devenus les tirailleurs sénégalais ?
Bonne question. Alors, comme tu l'as pu t'en apercevoir, une bonne partie d'entre eux, quand même, est décédée sur le champ de bataille. Ensuite, donc ceux qui ont survécu, heureusement pour eux, sont repartis. Alors là, il y a quelque chose de très intéressant et on va revenir sur... Le recours aux tirailleurs sénégalais s'est fait progressivement. À la fin, on manquait d'hommes et de moins en moins, les hommes d'Afrique de l'Ouest souhaitaient s'engager et partir. Donc à un moment donné, on a eu l'idée extraordinaire de leur promettre le statut de citoyen. Avoir les mêmes droits que le citoyen français métropolitain. Sauf quand ils sont rentrés, en effet, chez eux... Après la guerre, là on est en 19. Les troupes rentrent chez elles très tardivement. Il ne faut pas s'imaginer qu'en 18, là, le 11 novembre, tout le monde rentre chez soi, la fleur au fusil, super content. Donc, ils rentrent chez eux. On leur avait promis la citoyenneté française. Et d'autres droits. Ils n'ont pour la plupart jamais rien obtenu. Donc quand ils rentrent, ils repartent dans leur situation qu'ils ont quittée juste avant de partir à la guerre. C'est-à-dire travailler pour le Toubab, pour le Blanc. Autre sujet très important. L'armée française a essayé au maximum d'éviter le contact avec la population française, déjà, métropolitaine, et encore plus, bien entendu, avec les femmes françaises, avec les blanches. Mais néanmoins, certains couples ont pu se créer. Donc des enfants sont nés aussi de ces unions. Et pour finir là-dessus, cet épisode dramatique, cet épisode va avoir des conséquences énormes sur la suite des événements. C'est-à-dire que le rapport entre le blanc et l'indigène va être complètement transformé par cette Première Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir contact, il va y avoir échange, il va y avoir vie commune dans les tranchées. Quand les indigènes repartent en Afrique, ils n'ont plus le même, entre guillemets, respect vis-à-vis du blanc. Moins peur du blanc, parce qu'il a vu le blanc avoir peur, lui, dans les tranchées. Donc il y a tout ce contact-là. Et ça, je termine là-dessus, ça amène à quoi ? Ça va amener au mouvement d'émancipation et de décolonisation, d'indépendance de ces pays-là. Voilà, génial. Bon, revenez quand vous voulez, parce qu'il y a encore plein de choses à dire et à découvrir. Merci.
Touche pas à Abdou.
Adama, on en parlera.
Adama, on vous le soufflera.
Si tu t'accrochais à une étoile filante, t'aurais la lumière plein les bras et des rêves pour 1000 ans. Mais entre nous, à peine une pellicule. Pour se parler vraiment, on prend un véhicule. Pour être touché, faut voir le touchant. Et pour se toucher maintenant, on doit passer l'écran. Partir ailleurs que vers le nord, où les parois de béton vertical te bordent. Depuis ces temps immémoriaux où l'on se chuchote, se cherche avec le même noyau. Quelques notes, afin de repousser la guerre, quand ses lances et flèches contre fusil laser. L'avenir se trace dans le passé, donc le présent avant tout, tirer son destin du monde qui nous entoure. Rémus, Romulus, Abel et Caïn. nés pour se battre et coucher sans câlin. Avant d'être historique, c'est personnel. Malgré les prédictions traditionnelles, tout homme de son frère est le gardien, qu'il le veuille ou non. Dans le refus, le deuil est long. S'il y a terre dans fraternel, c'est qu'au début, il y a un peuple séparé par la mer. Tous le petit de quelqu'un à qui fut légué une chose à transmettre. Mais on ne peut courir au long du fleuve sans un jour penser à le traverser. Risquer les coutumes, vouloir les renverser, trier ce qu'il y a à conserver. Sur ce sol sphérique divisé, être chez soi peut faire se sentir dépaysé. Mais à force qu'un fils lion marche, il se forge, puis finit en marge entre ailleurs et l'Occident, car toute présence n'est pas un accident, parce que le chemin part de loin. Les aînés dans la famille parleront de moins en moins. Alors oui, l'important c'est l'autre. Y croire, c'est un jour reconnaître l'étoile au-delà des falaises, dans le monde des souffles, là où règnent les Nassas.
Quel est votre meilleur souvenir de famille?
C'est les fêtes de Noël.
Les vacances d'été, à Malaga. La plage, le soleil, on était tous ensemble, on faisait des grillades, c'est pas mal.
Mon meilleur souvenir de famille, je pense que ça a été quand on fêtait l'anniversaire de mon grand-père et qu'on allait au restaurant.
Aussi, et la naissance de ma fille, c'est important.
Qu'est-ce que pour vous la famille?
La famille,
c'est une priorité, c'est un premier.
La famille, c'est les proches, ça peut être pas forcément en lien avec des liens du sang, mais simplement des gens qui font partie de notre famille parce qu'ils nous sont proches. C'est important.
Quelle est votre pire dispute avec votre famille?
La pire dispute? Oh, tu sais, sur 90 ans, il y en a eu. Hein. Oh là 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 là.
On en veut qu'une.
Bah, ça arrive. C'est l'adolescence. On se dispute, il y a des hauts et des bas.
Celle qui vous a le plus marqué?
Qui m'a marqué?
C'est quand j'étais pas d'accord avec mes petits frères.
Tu sais, il y en a eu tellement, hein. Oh là là.
Il y a des familles où on se dispute, il y a des familles où quelquefois on n'est pas d'accord, mais on ne parle pas beaucoup non plus, ça dépend. Donc moi je suis d'une famille où on se cause pas beaucoup des fois, on ne dit pas tout à fait les choses, quoi.
Avez-vous des frères et des sœurs?
Oui, j'ai des frères et des sœurs.
Combien?
Alors, il faut que je compte là. J'ai 5 frères et 3 sœurs.
Est-ce que vous êtes proche de vos frères et sœurs?
Bien sûr. Donc, on est soudés, on a un lien très très fort. Et jamais on devrait... Je suis timide un petit peu, parce que voilà. La famille, c'est la base. C'est l'avenir, c'est tout.
Afida, c'est ma mère.
Elle est grande, avec des cheveux courts, et toujours des très beaux colliers.
Et des bijoux.
Elle me soutient quand je veux faire des choses.
Mais elle sait aussi me pousser quand j'ai pas envie d'aller à l'école.
Elle s'occupe de moi, elle me nourrit et elle m'habille. Ma maman, elle fait tout pour moi. Elle reste avec moi quand je rentre de l'école. Quand je fais des bêtises, elle me laisse toujours deux chances. À la troisième, elle me gronde et elle me confisque des choses que j'aime. J'aime bien quand on va au restaurant chinois tous les deux, parce qu'il n'y a pas mes petits frères et mes sœurs, et pas de dispute. Mes sorties préférées en famille, c'est le ramadan, la foire, l'Aïd et les vacances. C'est le moment où on discute le plus tous ensemble.
Alors c'est quoi pour toi la famille?
C'est la famille qui donne du plaisir. C'est grâce à ma maman que je suis en vie. Et aussi la famille, c'est des personnes sur qui on peut compter. La famille, c'est le cœur.
J'aimerais bien avoir une petite sœur.
Hey, moi je t'échange ma petite sœur contre ta grande sœur. Ma petite sœur, elle est gentille, elle est trop gentille.
Ah non, l'écoute pas. Moi j'ai une petite sœur à te donner, elle est trop mignonne.
Mais la mienne, elle voit la vie en rose.
Ma sœur, elle s'appelle Yasmine. Elle adore jouer et faire du vélo.
Moi aussi, elle aime jouer. Et avec elle, rien n'est jamais grave. Hein.
Don't worry, be happy.
Mais ma sœur, quand elle a des bonbons ou du chocolat, elle partage toujours.
Et moi, quand je suis triste, elle me console.
Bah en fait, je vais garder ma sœur.
Allez, ciao.
Ouais, salut.
Bah et moi, je reste toute seule.
J'ai un frère de 16 ans. Nous avons 3 ans de différence. On s'aime, on se déteste, on s'aime, on se déteste. C'est comme ça depuis toujours. Des fois, j'ai envie de l'insulter, de l'étriper. Et des fois, je l'adore. Faut dire qu'il me facilite pas les choses. Il est maladroit. Même quand il essaye de me faire rire, il me fait mal des fois. Il a tendance à oublier que je suis moins forte que lui. Après, il est marrant et on est complices. J'essaye de parler avec lui et lui de partager son univers avec moi en me faisant découvrir des films, des musiques. C'est compliqué parce qu'il est grand, il est au lycée et moi je suis au collège. Il nous lâche un peu pour profiter de ses amis. Je reste seule avec mes parents. J'aimerais avoir plus de moments avec lui pour m'amuser. Quand on était petit, on faisait plein de choses ensemble, même des bêtises. On s'inventait plein de vies. On était des capitaines de bateaux. Mon frère, il avait toujours plein d'idées. Il venait souvent dans ma chambre, moi je venais souvent dans la sienne. On a perdu ce petit grain de folie qu'on faisait ensemble. Bientôt, il va être majeur et il va s'en aller. Il a envie d'avoir sa vie à lui, son indépendance. C'est mon frère et il le sera toujours, donc je l'accepte comme il est. Et si j'avais pu le choisir, je l'aurais sûrement choisi. D'un côté, j'ai hâte qu'il s'en aille, mais en même temps, j'ai pas envie de le laisser partir.
À chaque histoire son secret.
Maman, est-ce que hier, c'est aujourd'hui?
Bouddha m'a dit aimé, les anciens sont fiers de toi, tu es loin.
Maman, est-ce que hier, c'est aujourd'hui.
Tu es un grand guerrier, Bouddha m'a dit aimé. Les anciens sont fiers de toi, tu es loin. Mais on se souvient de toi, Bouddha m'a.
Qu'est-ce que le métier de conteur?
Le métier de conteur, c'est le fait de raconter des histoires. Donc tu cherches des histoires. Et tu les redonnes à ta façon.
À quel âge vous avez commencé votre métier?
J'avais 19 ans.
Pouvez-vous nous résumer votre spectacle en une phrase?
Le passeur de lettres, c'est l'histoire de Bouddha m'a dit aimé, un tirailleur sénégalais, que l'on va suivre de ses grands-parents avec la Première Guerre mondiale jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à la fin des tirailleurs sénégalais.
Pourquoi vous vous êtes intéressée à la Première Guerre mondiale?
Je me suis intéressée aux tirailleurs, pas forcément la Première Guerre mondiale, mais les deux grands conflits. Parce que Claire, programmatrice jeune public du cinéma, Nestor Burma, m'a demandé si je pouvais faire quelque chose pour la sortie du film Adama. Et donc j'ai commencé à faire des recherches et j'ai trouvé ces fameuses lettres que je vous ai lues. Ce sont des vraies lettres hein, de tirailleurs sénégalais.
Et j'ai écrit ce spectacle. C'est un travail de mémoire, d'archives, en partant des archives.
Pourquoi vous avez choisi cette histoire ?
J'ai choisi cette histoire parce que, en fait, je tombe sur... Ça devait être un petit doc sur le journal TV, je pense. Mais c'est une archive, je tombe sur ça. Et en fait, je vois ce griot qui parle d'un personnage qui est déjà une légende, en fait. Le Dinaro, c'est une légende. Il est moitié génie, moitié guerrier. Et là, je dis, pour moi, c'était bingo, parce que vu que je suis conteuse, les griots, ce sont des conteurs aussi. Là, je me suis dit, c'est extraordinaire. Je me suis dit, qui ce Burama Dieme ? Et en cherchant, il existe vraiment. Alors, pour moi, ça a été un super point de départ.
Est-ce que vous aimez cette histoire ?
J'aime que cette histoire soit dite, redite. J'aime que vous l'entendiez aussi, cette histoire. C'est notre histoire à tous. L'histoire des tirailleurs coloniaux, c'est l'histoire aussi de la France. Et ce qui est important, c'est la différence de point de vue. Comment on va apprendre le conflit de la Seconde Guerre mondiale en France et comment on l'apprend au Sénégal, par exemple ? Vous vous doutez peut-être que c'est pas du tout de la même façon. C'est pas la même histoire. Donc je pense que le regard de chacun, d'où qu'il vienne, va donner un tableau final où on va pouvoir peut-être mieux comprendre et tirer des leçons pour construire notre vie de demain.
C'est dur d'être l'aînée d'une famille de 4 enfants. En plus, je suis la seule fille. Et j'ai 3 frères. C'est difficile de s'occuper d'eux quand mes parents ne sont pas là. Par exemple, quand ils se bagarrent, je les sépare. Mais ils sautent sur moi parce qu'ils veulent pas que je m'en mêle. Pour les calmer, soit je prends une chaussure, soit j'appelle mes parents. Des fois, quand ils sont gentils, je suis gentille avec eux. Je dois montrer l'exemple. Mais eux, ils veulent toujours rejouer à la bagarre. J'aimerais bien que ce soit pas toujours le bazar. Et qu'on se bagarre plus. Je voudrais jouer à des jeux sympas. Mais quand même, je les aime. Même s'ils se bagarrent, c'est mes petits frères préférés.
Merci à toutes et à tous pour votre écoute.
On espère que ça vous a plu. Nous, on a adoré réaliser cette émission avec Wakadji et Essor. À la réalisation, Sofiane,
Marius,
Yasmina,
Elikia,
Mohamed,
Alice,
Marwan.
Ah, fais la voix de ta frère.
Marwan,
Carly,
Kautar,
Charline,
Yasmina
et Noé.
On remercie Claire et le cinéma Nestor Burma
pour la séance en exclusivité.
Frédéric Chauvet pour sa visite des archives de Pierre Vive.
Katia Bellalima pour son spectacle.
Et aussi Odette Louise et L'Espirale pour leur accueil.
Et
un
Ibibibourra
pour Benjamin,
Sarah,
Colline
et Élise.
Wakadi, ça veut dire
on a quelque chose à dire.
Virginia too.